Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les Dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Frère Philippe, bonjour.
La dernière fois que nous avons parlé, nous avons évoqué le sabbat. Nous sommes dans la création, toute cette section du catéchisme qui parle de la création. Et nous avons évoqué, ce sont partie des anges, ces créatures invisibles, et puis le monde visible également. Et puis c'était donc le sabbat, ce jour où Dieu se reposa. Et la question du sabbat, quand on lit par exemple numéro 354 du catéchisme, je le lis, c'est court, hein. « Respecter les lois inscrites dans la création et les rapports qui dérivent de la nature des choses est un principe de sagesse et un fondement de la morale. » La question, plusieurs questions me viennent finalement en écoutant cela. D'une part, est-ce que le respect du jour de repos est tellement inscrit dans la création que la création aspire à se reposer septième jour, ou finalement est-ce qu'elle peut continuer de travailler en réalité? Mais il y a aussi pour nous aujourd'hui le sabbat, le samedi a glissé au dimanche. Est-ce que finalement nous avons dérogé à cette loi de départ? Qu'est-ce que représente pour nous le dimanche par rapport au sabbat? Ce sont tout un tas de questions que bien des gens nous posent de temps en temps.
Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions par rapport à ce que tu viens de dire. C'est clair que la nature, qui est marquée par la biologie, est une alternance entre ce qui est en puissance et ce qui est en acte. Et la création nécessite de passer par des périodes de repos pour que l'acte tende davantage à sa fin. Sinon, il est insuffisant, car il y a un dégradé d'acte depuis ce que le Créateur a réalisé, lui qui est acte pur. Il y a un dégradé dans la création qui fait que aucune créature ne peut être parfaitement en acte. Elle est toujours obligée de passer de la puissance à l'acte, et ce qui est en puissance est en repos par rapport à l'acte. Et de ce fait-là, c'est vrai que l'on voit dans le rite des fleurs, dans le rite des vivants, des animaux, des poissons, des périodes où ils stagnent en quelque sorte, soit dans l'eau, soit sur le singe, sur son arbre, etc. Ils connaissent des temps de repos réel, parce qu'ils ne peuvent pas être toujours en acte. Et on peut se demander, est-ce qu'il y aurait en plus quelque chose pour l'homme? Car l'homme connaît déjà ses rythmes de sommeil et de veille, comme on l'appelle. A-t-il besoin d'autre chose? Eh bien, Dieu lui a dit oui, en créant en quelque sorte l'obligation d'un repos pour Dieu, du sabbat, de se tourner vers le Seigneur, de cesser les activités quotidiennes, de gérer la nature, parce que finalement, quand Dieu dit « soumettez la nature et le devoir de la dominer », ce n'est pas une domination, je dirais, comme on pourrait la penser, comme un potentat qui domine ses sujets. Il s'agit d'une gérance, il s'agit d'une lieutenance, comme nous disions dans une émission précédente, où l'homme est gardien de ce qui est créé, et il joue un rôle au nom de Dieu. Il joue un rôle de médiateur, il joue un rôle de celui qui regarde les espèces se développer en harmonie, qui fait que les choses soient viables pour l'ensemble, et ce rôle médiateur exige qu'il se réfère de temps en temps à Dieu, son souverain, celui qui est le créateur par excellence. Et donc il a besoin d'un jour pour méditer sur l'œuvre de Dieu, sur ses lois, sur ce qu'il nous a dit dans sa parole. Et c'est vrai que le sabbat est le premier moment qui nous a été donné dans la Genèse. C'est un commandement positif. Et là, je réponds à la deuxième question. Les commandements positifs ont comme capacité de pouvoir être adapté au temps par rapport aux commandements qui sont purement négatifs. Par exemple, tu ne tueras pas, c'est valable toujours et tout le temps. Alors qu'un commandement positif peut être valable toujours, mais pas à chaque moment. Il peut être légèrement modifié selon les opportunités. Un peu, pour vous donner un exemple, quand je dis qu'il ne faut pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, c'est valable toujours. Par contre, quand c'est dit d'une manière positive, de faire à autrui ce que tu voudrais que l'on te fasse, on s'aperçoit bien que ce n'est pas possible de le réaliser à chaque instant. Il y a donc dans le commandement positif une possibilité du fait qu'il est valable toujours, mais pas pour toujours. Il est valable instant après instant. Et l'Église, avec Jésus-Christ, a compris que le jour du Seigneur pouvait très bien être transféré au dimanche. On aurait pu garder les deux, mais on aurait été des fainéants en se reposant. Et le petit sabbat et le grand sabbat, comme l'ont fait dans certaines églises dans lesquelles il y avait peut-être moins d'exigences de travail pour la vie, comme les Éthiopiens. Mais on a compris que c'était important de faire glisser le sabbat vers le grand sabbat qui était le dimanche, pour mieux manifester le jour de la résurrection du Seigneur, pour mieux magnifier l'œuvre de résurrection du Seigneur, et donc de le contempler, car le sabbat, c'est le jour où on contemple l'œuvre de Dieu, et la plus belle des œuvres de Dieu, c'est quand même la résurrection d'entre les morts, celle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est passée de sa mort à sa résurrection. Et nous avons besoin de son énergie, nous avons besoin de le contempler sortant du tombeau, pour affronter la difficulté du temps. Et nous savons que les temps sont toujours difficiles et que nous avons besoin d'autant plus du ressuscité à nos côtés et de contempler son œuvre de résurrection pour tenir le coup et même pour s'engager dans des voies qui parfois semblent à certains sans issue. Mais nous savons que la victoire de la résurrection est toujours plus forte, que la mort ne peut pas triompher de la vie et que nous pouvons toujours avoir le dernier mot à travers notre communion avec Jésus-Christ. Le dimanche, c'est d'abord le jour de la résurrection du Seigneur. Et nous le redisons maintenant à chaque dimanche. Je trouve ça très beau lors de la liturgie eucharistique. Au moment où on a dit la préface et on commence la liturgie proprement dit, on rappelle d'une manière plus explicite que par le passé, en ce premier jour de la semaine, où nous célébrons la résurrection du Seigneur. Donc je crois que ça aide beaucoup à motiver que nous célébrions donc ce temps du repos pour Dieu dans la plénitude de la contemplation de l'œuvre de Dieu qui est la résurrection.
Oui, alors ce dimanche, donc, est ce jour du Seigneur, et s'il est un jour de repos, il est, d'après, comme tu le dis, hein, c'est un jour pour Dieu, pour se garder ce contact avec celui qui est la source de la vie, celui qui est la résurrection et la vie. C'est un jour avec Dieu. C'est pas forcément un jour où le repos, c'est pas la farniente en réalité, oui, quand on regarde la pratique.
Exactement, le repos n'a jamais signifié la chaise longue. Et non, on est amené au contraire à donner du temps à la lecture, à la liturgie. Et c'est pour cela que pour un catholique, le jour du dimanche, nous sommes les hommes du jour de la résurrection, les jours du dimanche, nous ne le sautons pas. Nous considérons qu'il y a un appel de Dieu, que cet appel n'est pas facultatif.
C'est un jour de la contemplation, c'est un jour de l'écoute au bout du compte. Et ça me fait penser à un texte qui a beaucoup marqué ma vie religieuse, ma perception de comment entrer dans l'activité et pas dans l'activisme. Et alors je m'explique. Au début de l'évangile selon saint Marc, il y a ce passage où il est dit que les disciples reviennent de leur première mission, viennent Jésus, et on dit qu'ils avaient à peine le temps de manger. En fait, ils n'avaient pas le temps de manger. Et Jésus leur dit: allez, vous autres, avec moi, allons nous reposer dans un lieu désert, quelque chose comme ça, quand on est. Et on raconte donc, ils montent en barque et ils vont sur le lac, et la foule voit ce qui se passe et elle fait la même chose, mais sur le rivage. C'est ça. Et au bout du compte, Jésus, qui a promis le repos, se retrouve face à cette foule. On aurait envie de dire, ben Jésus, dis-leur qu'il vous embête et puis qu'il s'en aille. C'est pas ce qui se passe. Les disciples ont dû être sacrément déçus, eux qui étaient fatigués, puisque Jésus dit qu'il était face à eux comme ému jusqu'aux entrailles, parce qu'ils étaient là comme des brebis sans berger, et il se mit à les enseigner. impossible repos. On a l'impression de ça. Or, je me suis tout le temps dit, en voyant ce texte-là, par rapport à ma propre vie, c'est-à-dire qu'il y a, Jésus ne cherche pas à remplir le temps par de l'activité pour remplir, ce qui serait de l'activisme. Il cherche, à mon sens, c'est-à-dire, on est le lieu de notre repos, c'est le lieu où on est là où on doit être avec Dieu, dans cette présence de Dieu qui le porte, qui nous porte à accomplir la mission qu'on a à faire, notre vocation, j'allais dire, pas au grand sens du terme, mais à tout moment de notre existence.
Tout à fait. Et dans la tradition juive, le sabbat est le jour où on étudie le Talmud. Le Talmud, ça veut dire le lieu de l'étude. Et Jésus, d'une certaine manière, en enseignant la foule, a fait ce que réalisent de nos jours les rabbins quand ils enseignent. Ils enseignent particulièrement ce jour-là la vérité des Écritures pour élever l'âme vers les réalités divines, pour qu'elle ne soit pas trop enfoncée, je dirais, dans les réalités purement terrestres, dans lesquelles c'est facile de s'enfoncer quand on n'a pas de regard, de recul. Faire une pause dans la semaine, ce n'est pas seulement pour se reposer, même si c'est vrai, c'est quand même ça va du bien de se reposer, mais c'est pour s'élever.
Oui.
C'est pour s'élever au-dessus de la réalité temporelle qui serait trop chronophage, qui aurait trop tendance à nous mettre le nez dans le guidon, comme on dit, mais de nous élever au-dessus de la matière temporelle dans laquelle nous nous sommes immergés pour penser à quelque chose qui nous dépasse et pour apprendre à dominer notre domination du quotidien.
D'ailleurs,
j'aime bien
concrète.
Cette expression de Benoît XVI, dominer la domination du quotidien.
Et ça me fait penser, toi qui connais bien les autres confessions chrétiennes, puisque tu as travaillé beaucoup dans l'étude sur l'écuménisme, bien des traditions ont une école du dimanche, justement, qui correspond un peu à ce que tu dis là, cet enseignement
du dimanche. Cet enseignement du dimanche, voilà, les coptes, les protestants et beaucoup d'autres familles aiment se réunir pour étudier la parole de Dieu.